Je t'aime sont probablement les deux mots les plus doux de la langue française, soit qu'on les entende, soit qu'on les prononce. Presque tout le monde a expérimenté un certain degré d'amour ou d'affection au moins une fois dans sa vie. C'est merveilleux, mais statistiquement parlant, relativement banal. Par contre, ce qui est totalement inhabituel, c'est de s'entendre dire par un ange qu'on est bien aimé de Dieu. C'est ce qui est pourtant arrivé au prophète Daniel, et à deux reprises. Je continue à lire dans le chapitre 10 du livre de Daniel. « Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Verset 11. Daniel a été jugé digne de recevoir et de communiquer à d'autres cette vision, mais le processus n'est pas de tout repos. En effet, au-dessus du fleuve Tigre, il a d'abord vu la gloire de Dieu qui l'a terrassé, et il s'est effondré. Mais le porte-parole de l'ange de l'Éternel, qui est probablement Gabriel, est venu et le texte dit « Une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. » Maintenant, l'ange l'exhorte à se lever afin de recevoir la prophétie. Daniel, qui a d'abord été face contre terre, puis à quatre pattes, se met enfin debout, mais il tremble comme une feuille, tellement la vision de la gloire de l'Éternel qu'il a vue au-dessus du fleuve l'a marqué. Être prophète de l'Éternel n'est pas une sinécure. Je continue. L'ange poursuivit. « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. » Verset 12. C'est la seconde fois qu'un ange dit à Daniel que dès qu'il commence à prier, la réponse est en route. Ça a dû être un grand encouragement pour lui de savoir que Dieu était attentif à son intercession et mettait immédiatement en œuvre son exaucement. Plus loin, il est précisé que ce qui tient Daniel en souci est l'avenir de son peuple suite à la vision qu'il a reçue d'une grande guerre qui doit encore arriver. Je continue. « Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Verset 13. C'est le genre d'affirmation qui vous coupe le souffle car ses implications sont troublantes. Comme un roi n'est qu'un simple homme, il ne peut pas se battre contre un ange. Le chef du royaume de Perse est donc un être spirituel à la solde de Satan. Ici, le Saint-Esprit lève partiellement et momentanément le voile qui nous cache le monde invisible, afin que nous puissions voir que dans l'au-delà aussi, il y a des luttes entre les puissances du bien et du mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable. Il existe des forces célestes et sataniques. L'apôtre Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » L'univers est beaucoup plus complexe que le monde matériel qui nous entoure et est accessible à nos cinq sens. Dans son principe, la prière de Daniel était exaucée dès le premier jour où il a eu à cœur de s'humilier devant Dieu. Mais l'information que donne Gabriel explique pourquoi la réponse qu'il apporte a été retardée. Pendant 21 jours, qui correspondent aux 3 semaines de jeûne et de prière de Daniel. Pendant tout ce temps, l'ange a été obligé de combattre une puissance hostile, le chef du royaume de Perse qui lui barrait la route. En quelque sorte, avant de pouvoir arriver jusqu'à Daniel, il lui a fallu traverser les lignes ennemies. Si on rassemble les différents renseignements que Dieu nous donne dans ce chapitre, dans le précédent et dans d'autres passages, on apprend que Satan a placé un démon de haut rang à la tête de chaque État afin qu'il lui inspire sa politique, préside à son développement selon les plans du diable et influence les différentes générations contre Dieu et son peuple de toutes les manières possibles, par la philosophie, la religion, la fausse science, les arts, la musique, l'économie et que sais-je encore. Israël est différent des autres nations car son ange est fidèle à Dieu. Il s'agit de Michel, dont le nom signifie « qui est semblable à Dieu ». Et sa fonction essentielle est de rappeler au peuple élu que l'Éternel est le Dieu unique et vrai. Michel est aussi l'un des principaux chefs, ce qui explique pourquoi Jude l'appelle archange. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon, ce qui montre bien qu'il est d'un rang plus élevé qu'un simple ange. Comme je l'ai déjà dit, après avoir créé les anges, Dieu les a organisés en une hiérarchie un peu comme à l'armée, ce qui nous est révélé dans plusieurs passages et quelquefois indirectement. Par exemple, l'apôtre Paul écrit « Dieu nous a fait connaître sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Jusqu'à présent, nous savons que quand Daniel a eu à cœur de savoir ce qui arrivera à son peuple dans la suite des temps et qu'il s'est mis à prier, Dieu a envoyé Gabriel avec la réponse. Mais à peine cet ange s'était-il mis en route qu'un prince infernal appelé chef du royaume de Perse lui a barré la route au point où il ne pouvait pas passer. Il a lutté pendant les 3 semaines qu'ont duré l'intercession de Daniel. Finalement, Michel, l'archange assigné à Israël et qui est aussi l'un des principaux chefs des puissances combattantes du monde angélique fidèle à Dieu, est arrivé à la rescousse. Mais on ne nous dit pas pourquoi il a tant tardé. Même si Dieu a soulevé un coin du voile qui nous cache le monde invisible, on ne sait vraiment pas grand-chose. En tout cas, l'arrivée de Michel qui s'est jointe à Gabriel contre le prince infernal a permis aux anges de triompher de ce démon qui a été contraint de laisser passer Gabriel. Grâce à cette victoire, il a pu, d'une part, arriver jusqu'à Daniel, et d'autre part, il pourra revenir librement dans les hauts lieux politiques des rois perses qui succéderont à Cyrus, afin de les influencer pour le bien de la nation d'Israël, et ainsi contrecarrer les projets de Satan. Et effectivement, selon les livres d'histoire, la plupart des monarques perses ont été favorables aux exilés israélites, à l'exception de Cambyse II, dont j'ai déjà parlé, et qui, selon l'historien grec Hérodote, était un être ignoble, un despote qui menait une vie dissolue, un ivrogne qui faisait des crises de folie éthylique pendant lesquelles il commettait des sacrilèges et des actes de cruauté. De plus, il était hostile aux cultes étrangers et donc à la reconstruction du temple de Jérusalem. Pourtant, malgré cette victoire des forces angéliques sur les puissances des ténèbres, dans les hautes sphères spirituelles, la lutte se poursuit. Car plus loin, Gabriel dit à Daniel que sur le chemin du retour, il va devoir affronter à nouveau le chef du royaume de Perse et plus tard le chef de la Grèce. Nous en sommes toujours aux premières paroles de Gabriel à Daniel au moment de son arrivée. Il est venu pour lui révéler les calamités et les guerres qui attendent son peuple et qui dureront jusqu'à la venue du prince de la paix, Jésus-Christ, le Messie. Face aux révélations extraordinaires de ce texte, on peut vraiment dire que la réalité dépasse la fiction. Ce passage nous enseigne également qu'une prière fervente est une lutte, ce qui était aussi la façon dont l'apôtre Paul l'envisageait. En effet, quand il dit à l'église de Rome d'intercéder pour lui, il écrit « Je vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. » Or, la racine du mot grec qui est traduit par « combattre » a donné « agoniser » en français. C'est tout dire. La prière n'est ni un jeu d'esprit, ni de la belle prose, ni une énumération de ses connaissances théologiques, mais une bataille dans laquelle on se donne à fond corps et âme, parce qu'on doit lutter contre les puissances des ténèbres qui, de diverses manières, essaient de nous empêcher de crier à Dieu. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'intercession pour les non-croyants, afin qu'ils croient en Jésus-Christ, est une lutte non contre eux, mais contre les idées, les opinions, les croyances auxquelles ils adhèrent, car celles-ci leur ont été insufflées par une culture et une éducation contrôlées par des esprits diaboliques. À l'église de Corinthe, l'apôtre Paul écrit « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Fin de citation. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il est automatiquement enrôlé dans son armée et se trouve propulsé dans une lutte face à un ennemi invisible qu'il doit combattre avec des armes spirituelles. À l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul écrit « Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Fin de citation. Je continue maintenant le texte du chapitre 10 où Gabriel dit à Daniel « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans la suite des temps, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. » Verset 14. La révélation que va recevoir Daniel concerne le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël, et elle s'accomplira dans un avenir qui est compris entre le moment où elle est donnée et la fin des temps, qui se termine par la grande tribulation, le jugement de l'Antéchrist et l'instauration du millénium avec à sa tête Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ceci dit, l'horizon prophétique de chaque vision qui est communiquée à Daniel est plus ou moins éloigné selon l'époque où il la reçoit et le moment où les événements annoncés doivent se réaliser. Je continue. « Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je baissais la tête et je restais muet. » Verset 15. Gabriel est prêt à révéler l'avenir à Daniel, mais le pauvre n'est pas en état de le recevoir parce qu'il est encore sous le choc d'avoir appris le conflit entre les puissances spirituelles auxquelles s'ajoute la douleur de savoir que son peuple devra encore endurer bien des souffrances. Il faut dire que Daniel est en train de vivre un moment particulièrement difficile. Alors, submergé par l'émotion, au lieu de dire à l'ange « parle », il déprime, baisse la tête et reste silencieux. Je continue. « Et voici que quelque chose qui avait l'aspect d'une main humaine me toucha les lèvres, alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « « Monseigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. » Verset 16. Cet incident en rappelle deux autres dans les Écritures. L'Éternel a touché les lèvres du prophète Jérémie et Jésus-Christ a touché la langue d'un sourd-muet. La main qui a touché les lèvres de Daniel n'appartient pas à Gabriel, mais à l'ange de l'Éternel que Daniel a vu précédemment au-dessus des eaux du fleuve Tigre et dans ses visions nocturnes quand il a dit « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. » Daniel peut désormais parler, mais c'est pour exprimer sa faiblesse et son angoisse. Je continue. « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Verset 17. Daniel se déclare le serviteur de celui qui lui a touché les lèvres, mais dit ne pas pouvoir parler à Gabriel parce qu'il est épuisé et démoralisé. Il faut remarquer que ce passage reste très discret sur l'identité des deux personnages qui sont en interaction avec Daniel. Il est logique de penser que celui qui est venu le voir est Gabriel, mais le texte ne dit jamais son nom. L'autre est très probablement celui qui est semblable à un fils d'homme, mais lui non plus n'est pas identifié dans ce passage. Je continue. De nouveau, quelque chose qui avait l'aspect d'une main humaine me toucha et me fortifia. Verset 18. C'est encore le personnage semblable à un fils d'homme qui intervient. Ce toucher surnaturel donne à Daniel les forces intérieures qui lui permettent de se ressaisir. Je continue. Il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Verset 19. Daniel a déjà été appelé « homme bien-aimé de Dieu » à trois reprises. La première fois, on sait qu'il s'agissait de Gabriel. La deuxième fois, et ici, le personnage n'est pas identifié, mais il y a de grandes chances pour que ce soit encore Gabriel. Maintenant que Daniel a été fortifié par l'ange de l'Éternel, il est ouvert à l'encouragement que lui procure l'ange et se dit prêt à entendre la révélation. Je continue. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. » Verset 20. L'ange Gabriel a profité de la venue de l'archange Michel pour traverser les lignes ennemies et se rendre auprès de Daniel pour remplir sa mission. Mais sa tâche, une fois accomplie, il devra retourner combattre les puissances diaboliques hostiles au règne de Dieu. Gabriel n'est donc pas seulement un messager, mais aussi un soldat autant que Michel. Après une première victoire, les forces angéliques doivent s'assurer que le chef de la Perse ne puisse pas influencer négativement le cœur des rois perses afin qu'ils restent bien disposés à l'égard d'Israël, ce qui, dans une large mesure, fut le cas, mais pas entièrement. En effet, Esdras et Néhémie décrivent les nombreux obstacles que leurs ennemis ont placés sur leur route afin d'entraver la reconstruction du temple puis de Jérusalem. Et le livre d'Esther raconte le sinistre complot d'Aman qui, sous le règne du roi Xerxès, a essayé d'exterminer tout le peuple juif. Mais toutes ces difficultés furent providentiellement aplanies. Gabriel parle également du chef de la Grèce, une allusion à l'émergence de l'empire d'Alexandre le Grand, le troisième royaume de trois prophéties précédentes, qui prendra la suite de la Perse, le deuxième royaume prophétisé. Tout comme le chef de la Perse, le chef de la Grèce est un démon de haut rang chargé d'influencer ce pays dans une voie conforme au plan de Satan. Grâce au soutien de l'archange Michel, Gabriel a lutté avec succès contre le chef de la Perse. Mais ensuite, il devra faire face à son successeur et nouvel adversaire, le chef de la Grèce. Lui aussi devra être combattu avec acharnement, car il se révélera plus dangereux que le chef de la Perse. En effet, on a déjà appris dans une prophétie antérieure que Antiochus IV Épiphane, l'un des héritiers d'Alexandre le Grand, sera animé d'un esprit diabolique bien plus hostile aux Juifs qu'aucun des rois perses. Je finis le chapitre 10. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Verset 21. Gabriel doit repartir au combat contre les chefs de la Perse et de la Grèce, et il ne peut compter que sur le soutien de Michel, car c'est apparemment ce que l'Éternel a décidé. Au final, on ne sait pratiquement rien concernant ce qui se passe dans l'au-delà. Au fur et à mesure qu'on avance dans la révélation que Gabriel est venu apporter, le mystère s'épaissit. Cependant, l'ange ne quittera pas Daniel avant de lui avoir fait connaître l'issue glorieuse de toutes ses luttes. Le livre de vérité dont il est question ici est celui qui contient tous les décrets divins où les événements de l'histoire humaine ainsi que leur aboutissement sont consignés d'avance. Dans ce livre doivent aussi figurer les noms des grands de ce monde qui, d'un point de vue humain, ont fait l'histoire, mais dans la réalité, ils n'étaient que des pions sur l'échiquier du Dieu souverain.